Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa économique et commerciale. Major Prépa t'accompagne tout au long de l'année pour te permettre de te révéler au concours.
Le tableau « Le voyageur contemplant une mer de nuages » de Caspar David Friedrich donne à voir un homme perdu dans la contemplation du paysage, dans lequel il trouve un reflet de ses propres sentiments. Cette attitude de méditation, qui invite à l'introspection et l'exaltation des sentiments, est caractéristique du personnage romantique, associé à un sentiment de mélancolie ou de mal-être. Le terme « romantique » se rapporte au mouvement intellectuel, littéraire et artistique qui se développe entre 1820 et 1843 et qui vise à renouveler les formes de pensée et d'expression en rejetant les règles classiques et le rationalisme, en prônant au contraire la nature, l'imagination, le rêve et la spiritualité. Ce mouvement se caractérise d'abord par l'affirmation de la sensibilité, de la subjectivité et de la liberté contre la raison et les normes. Il correspond aussi à une soif de grandeur, une aspiration à l'idéal et l'absolu. En termes d'expression artistique, le romantisme se traduit à la fois par un goût de l'excès et du contraste et par un souci de précision, de diversification de l'inspiration en se tournant vers les thèmes orientaux. Par extension, au sens courant, on appelle romantique ce qui manifeste une prédominance d'idéalisme et de sentimentalité qui invite à la rêverie et l'expression des sentiments. Le romantisme naissant d'abord d'un rejet de règles préétablies, se demander s'il faut être romantique implique d'abord une comparaison. Il faudrait par exemple être romantique plutôt que classique. Cependant, le terme de falloir peut avoir plusieurs sens. D'une part, il suppose la possibilité d'être romantique. D'autre part, il renvoie soit à une notion d'utilité ou de bienséance, soit de nécessité. Sous-entendu, il n'y a pas le choix. D'autre part, le romantisme n'étant qu'un mouvement littéraire, il paraît surprenant de se poser cette question. Car la réponse semble dépendre de la sensibilité artistique de l'interlocuteur. Est-ce qu'il y aurait une obligation morale à être romantique ? Est-ce qu'il s'agirait de l'attitude la plus moralement acceptable face au monde et à ses propres sentiments ? La question est d'autant plus étonnante que le romantisme est associé à un sentiment de souffrance ou de mal-être, celui d'une personne plongée dans la contemplation de ses sentiments et inadaptée au monde. Comment expliquer qu'une posture née du sentiment d'inadéquation liée à une époque historique particulière, rejet du classicisme, déception liée aux troubles politiques, puisse encore être pertinente, voire recherchée aujourd'hui ? Nous verrons en premier lieu qu'à choisir parmi divers mouvements littéraires, ce n'est pas la posture romantique qui semble préférable. Cependant, on peut gagner à être romantique, à condition de faire de ce romantisme un moteur d'action. Finalement, s'il faut être romantique, ce n'est pas pour soi-même, mais pour le rapport que cette attitude permet d'entretenir avec autrui. En premier lieu, à choisir parmi divers mouvements littéraires, ce n'est pas la posture romantique qui semble optimale. Il ne faudrait pas être romantique plutôt que classique, par exemple. Tout d'abord, qu'il faille être romantique implique qu'il soit possible de l'être, de choisir de l'être. Or, le romantisme ne peut pas résulter d'un choix. Il ne faut pas être romantique, puisqu'il est impossible de choisir d'être romantique. En effet, le romantisme est plus un symptôme qu'un choix. Musset, dans Les Confessions d'un enfant du siècle, décrit les romantiques comme les fils de l'Empire et petits-fils de la Révolution, qui souffrent d'un mal du siècle à cause des troubles politiques de leur époque. Leur jeunesse est en ruine, à cause de l'ancien absolutisme, et leur futur incertain. Même dans le domaine artistique, le romantisme se subit plus qu'il ne se choisit, par exemple avec la figure du génie. Pour Kant, dans La critique de la faculté de juger, le génie ne s'apprend pas. C'est un talent qui consiste à produire ce dont on ne saurait donner aucune règle déterminée. Le génie est donc nécessairement original et doit donner naissance à un modèle alors même que l'œuvre géniale ne résulte d'aucun modèle. Mais ce génie ne peut pas se choisir. Il est subi. D'autre part, même si le romantisme pouvait résulter d'un choix, il correspond à une attitude de retournement vers son monde intérieur, qui semble incompatible avec la morale. Le concept de romantisme vient en effet de Germaine de Staël, qui décrit ainsi le profil de l'Allemand de l'époque, un être sentimental, loyal, mais incapable d'action et tourné uniquement vers le rêve. Cette attitude permet une littérature fondée sur l'émotion et l'originalité, que Germaine de Staël défend contre la littérature française qu'elle juge élégante mais vide. En revanche, sur le plan moral, cette attitude invite davantage à la contemplation de soi et du monde, plutôt qu'à l'action dans le monde. Il s'agit d'une attitude paradoxale de renfermement en soi et d'ouverture sur le monde, mais dont ces deux mouvements contraires ont un point commun, ils éloignent du monde social peuplé d'interactions humaines. Le héros romantique vit en fait un double échec, celui qui est à l'origine de ses souffrances, un échec amoureux ou une ambition déçue, et celui qui résulte de son inaptitude à dépasser ses souffrances. Ainsi, les héros du mouvement du Sturm und Drang, Tempête et Passion en allemand, développés dans la littérature pré-romantique de Goethe, sont des personnages habités par leur passion et qui ne parviennent pas à leur échapper. Le héros romantique reste dans ce cas prisonnier de l'expression de ses sentiments. Il ne parvient pas à revenir à la raison. En cela, c'est l'attitude classique qui semble préférable. Contre la figure du héros romantique, le classicisme prône le respect des règles strictes, qui permettent d'encadrer l'action et de tempérer les passions. L'objectif de la littérature y est de plaire et d'instruire, grâce au postulat exposé par Descartes, selon lequel le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, dans son discours de la méthode. Autrement dit, tout homme est doué de raison et capable d'en user. Dans cette vision classique, l'homme peut se purger de ses passions par la catharsis, en observant le déchaînement des passions de personnages tragiques, et il est invité à la mesure et à la maîtrise. C'est le contraire avec le mouvement romantique, qui invite chacun à exalter ses sentiments, et en particulier le sentiment de souffrance personnelle. Par rapport à l'attitude classique, la posture romantique peut sembler donc déraisonnable et vaine. Cependant, on peut juger qu'il est bon d'être romantique, à condition de faire de ce romantisme un moteur d'action. En effet, le mouvement romantique est également attaché à une idée d'engagement social et politique. Il faudrait donc être romantique, dans la mesure où le romantisme invite à agir dans et sur le monde. Le romantisme ne se réduit pas à un sentiment d'inadéquation et à l'exaltation de l'expression de la souffrance singulière. Il résulte surtout d'un attachement acharné à un idéal, un refus de compromission, un refus de céder devant un monde qui ne tient pas ses promesses. C'est de l'écart entre le monde idéal auquel aspire le romantique et le monde réel que résulte cette souffrance. En cela, il faut être romantique au sens où il faut ne pas renoncer à son idéal, à condition de faire de cet attachement un moteur d'action et non une raison de se lamenter. Ainsi, Hegel, dans La raison dans l'histoire, explique que l'esprit romantique a soif de démesure, et c'est la volonté d'échapper à la médiocrité, qui découle de cette soif de démesure, qui permet les grandes créations du romantisme, opposée à la figure de l'honnête homme du XVIIe, qui cherche au contraire le juste milieu. Le romantisme devient ainsi un moteur d'action en ce qu'il est fondé sur un rejet. En ce sens, il est encore d'actualité aujourd'hui. On aurait pu se demander pourquoi, étant donné que le romantisme est un mouvement du XIXe siècle depuis longtemps révolu, il faudrait être romantique encore aujourd'hui. En réalité, dans une perspective opposée à celle de Descartes, qui, toujours dans le discours de la méthode, préconise de changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde, le romantique cherche justement non pas à changer sa perception propre du monde, de la vie et de l'art, perception qui est à l'origine d'une souffrance légitime, mais à changer le monde lui-même, pour qu'il devienne conforme à son idéal. Pour être fertile, le romantique doit accepter de renoncer à ses ambitions personnelles pour remettre l'humain au cœur de sa relation au monde. Alors que l'ambition ou la souffrance personnelle sont des sentiments privés qui referment sur soi au lieu d'ouvrir sur l'autre, le romantique, s'il veut agir dans le monde au nom de son idéal, doit accepter d'assumer ses propres imperfections, sa propre inadéquation au monde. Il ne s'agit pas de renoncer à son idéal, mais de reconnaître que l'écart qui l'en sépare n'est pas une fatalité, mais une marge de manœuvre. On peut invoquer le tableau « La liberté guidant le peuple » de Delacroix. Le tableau représente une femme coiffée d'un bonnet phrygien qui, devant le spectacle des soldats morts, brandit un drapeau tricolore qui représente la liberté. Ce tableau illustre à la fois la soif de grandeur des romantiques, la soif de changement, leur aspiration fondamentale à un monde meilleur, et la nécessité de faire de cette aspiration un moteur de combat. Le romantisme est alors fructueux, car il témoigne d'une volonté d'ouverture. Par opposition au classicisme, qui défend que la perfection artistique a été atteinte dans l'Antiquité, et que par conséquent l'art ne peut s'en approcher que par imitation, le romantisme cherche à se libérer des règles, non seulement par un rejet dû à un sentiment de mal-être singulier, mais également par ouverture et par curiosité sur le monde. Le mouvement du romantisme se caractérise en effet par un goût du voyage, une ouverture sur les cultures orientales et une volonté de précision dans la description de ces cultures. Ainsi, Charles Baudelaire écrit dans le poème « Le voyage », extrait des Fleurs du Mal, « Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. » On retrouve ces éléments chez Delacroix, dans son tableau « Les femmes d'Alger dans leur appartement », qui traduit à nouveau ce goût du voyage, un intérêt pour l'Orient et une volonté de faire couleur locale, par une profusion de détails et de couleurs. Finalement, avec cette idée d'ouverture, on comprend qu'il faut être romantique non pour soi, mais dans son rapport aux autres. En effet, il est clair que le romantisme pour soi est vain et source de malheur. Même s'il invite à l'action, comme vu dans la partie précédente, l'issue de ses actions n'est pas assurée, et le héros romantique ne peut pas toujours s'en enorgueillir. Au contraire, même le romantique qui agit peut se retrouver pris à son propre piège, trompé par sa soif de grandeur. C'est le cas dans Lorenzaccio de Musset, où le héros romantique est seul. Il vit dans la désillusion après avoir sacrifié sa vertu en vain, alors qu'il souhaitait rétablir la gloire de Florence. Il dit donc « Je me suis réveillé de mes rêves, rien de plus. Je te dis le danger d'enfer. » Il jette donc le discrédit sur sa soif d'idéal, qui ne lui a pas permis d'atteindre son objectif. De même, dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, les romantiques échouent à atteindre la grandeur à laquelle ils aspirent. Julien Sorel doit se conformer à la société qu'il exècre pour aspirer à la réussite. Il n'est paradoxalement jamais aussi heureux qu'en prison, où il retrouve dans sa solitude la liberté, qui n'est plus mise en échec par la médiocrité de la société. Mais c'est alors dans l'expression artistique que le romantisme peut prendre son sens. En mettant l'accent sur l'intériorité et la sensibilité des personnages, l'artiste romantique donne à voir un monde bien plus complexe et bien plus proche de la réalité que le classicisme. Il rejette les règles qui enfermaient la création artistique, telles que la règle de bienséance, et par son goût du contraste et sa fidélité à la nature humaine, il cherche à représenter l'homme dans son entièreté, à la fois fait de poussière d'étoiles et de poils de bourrique, pour reprendre l'expression de Victor Hugo. Ainsi, pour Stendhal, dans Racine et Shakespeare, Shakespeare est supérieur à Racine en ce qu'il donne une image bien plus fidèle de l'homme, en le représentant à la fois dans sa grandeur et dans ses bassesses, tandis que les tragédies classiques ne montrent que les sentiments nobles. De même, Victor Hugo, dans ses drames romantiques tels que Ruy Blas, cherche à montrer que le romantisme allie le sublime et le grotesque, pour donner l'image la plus fidèle de l'homme tiraillé entre deux extrêmes. Même Ruy Blas, simple laquais qui se fait passer pour le noble Don César, est capable de sentiments purs. Il dit en effet à la scène 2 de l'acte 2 « Madame, sous vos pieds, dans l'ombre, un homme est là, qui vous aime perdu dans la nuit qui le voile, qui souffre vers de terre amoureux d'une étoile, qui pour vous donnera son âme s'il le faut, et qui se meurt en bas quand vous brillez en haut. » On peut ainsi par exemple défendre qu'il faut être romantique, parce que seul le romantisme cherche à représenter l'homme dans sa complexité, donc présente des personnages dans lesquels le lecteur se reconnaît entièrement. Cette expression de l'intériorité des personnages, et le fait d'assumer leur nature double, invite le lecteur à plonger à son tour en lui-même, pour chercher à s'observer et oser laisser émerger ses ressentis. On peut donc particulièrement défendre qu'il faut être romantique aujourd'hui, dans un monde qui détourne au contraire de l'introspection par souci de productivité. Enfin, le romantisme invite l'artiste à l'expression de ses sentiments singuliers. Par l'expression de ses sentiments propres, directement ou à travers ceux d'un personnage, à travers une combinaison de touches de couleurs, l'artiste fait plonger le lecteur ou le spectateur dans sa propre sensibilité, et lui fait par là découvrir un monde singulier, qui augmente la richesse de celui qui le découvre. Il s'agit d'une plongée unique dans l'intériorité d'autrui, d'un voyage par cette plongée en elle-même, au-delà de la simple présence de motifs orientaux. La découverte même des sentiments d'autrui avec une telle profondeur et une telle richesse d'expression, par exemple dans le choix du contraste, du clair-obscur en peinture, par l'exaltation des sentiments en littérature, par la profusion des notes en musique, constitue déjà un voyage en elle-même pour le public. Ainsi, la palette d'harmonie et de notes utilisée par Liszt dans son Liebestraum permet de toucher le spectateur personnellement, par la précision et la sensibilité qu'il cherche à transmettre. Tel le prisonnier du tyran grec Phalaris, prisonnier enfermé dans un taureau d'airain brûlant, les cris de l'artiste romantique sont déformés par l'expression artistique. Ils y trouvent une façon de s'exprimer que le lecteur ou le spectateur est capable de recevoir. Tandis que ceux du prisonnier résonnent sous forme de mugissement, emprisonnés dans ce taureau d'airain, ceux de l'artiste ne peuvent s'exprimer que sous forme de vers ou de musique. C'est par le truchement de la poésie que l'artiste peut ainsi s'exprimer et se faire entendre par les spectateurs. En définitive, si chacun doit apprendre à être romantique de façon saine, pour un rapport plus ouvert et plus attentif à soi comme au monde, ce romantisme n'est à défendre qu'en tant qu'il mène à une action sur le monde, à un combat pour rendre le monde davantage semblable à l'idéal dont le romantique plaint l'irréalisation. Dans un monde gouverné par la technique, on peut même se demander si une invitation au romantisme n'inciterait pas à un retour vers la nature, sur laquelle on peut porter un regard nouveau, pour en apprécier à nouveau la beauté, la richesse et la simplicité. Merci d'avoir écouté ce podcast sur le sujet « Faut-il être romantique ?» et à bientôt pour un nouveau podcast sur Major Prépa.